l'enregistrement d'une présentation faite au colloque de Rennes, au CHU de Rennes, du 31 janvier 2014, sur les soins obligés. L'intitulé de ma présentation s'appelle « La perception par l'expertise, de l'expertise pardon, par les JAP, une recherche empirique ». Alors, d'abord une introduction pour présenter ma recherche et en expliquer le contexte. Alors, aux États-Unis, les juges ont depuis un arrêt fondateur, Daubert contre Daubert, un arrêt de la Cour suprême de 1993, l'obligation de déterminer si les expertises et autres preuves scientifiques qui leur sont présentées sont scientifiquement assez solides pour constituer des données devant figurer au dossier. Et pourtant, il est évident qu'ils n'ont pas les compétences que d'autres recherches ont également montrées. Rien de tel en France, les juges doivent dans un nombre croissant de cas provoquer des expertises, mais le sort qu'ils réservent à ces expertises, mis à part dans le cas, dans quelques cas que nous verrons, n'est pas défini. Donc pourquoi cette recherche? Même donc parce que le contexte français en effet est spécifique. D'abord, en effet, je viens de le dire, dans l'exécution des peines, spécifiquement et ailleurs, il y a de plus en plus d'expertises obligatoires. Ensuite, parce que cela repose, ces expertises obligatoires, cette augmentation sur une peur du risque et la volonté de le limiter. Troisièmement, mais en même temps, parce qu'en France, les évaluations sont faites par des experts et non pas des agents de probation, comme ça va être le cas ailleurs dans l'exécution des peines, uniquement dans le but de prédire la récidive et non pour planifier un traitement. Quand je parle de traitement ici, je ne parle évidemment pas de traitement médical ou psychiatrique, je parle de traitement dans le cadre de la probation. Et en outre, ces évaluations sont faites par ces experts, essentiellement de manière clinique non structurée ou pratiquement, ce qui soulève un certain nombre de questions quant à la rigueur et à la capacité à prédire de ces mêmes expertises. Les experts ne sont pas formés à l'évaluation, c'est-à-dire une recherche par Coralie, Parata et Allegen l'a montré en 2012. Et aussi parce qu'il y a une résistance plus largement en France aux outils fiables. Parce que dans certains cas aussi, donc, les JAP en France sont liés par l'expertise, ce qui n'est pas le cas en principe général. Le principe général en matière pénale, c'est la liberté de la preuve. Mais dans certains cas, en cas de PSEM, en cas de surveillance judiciaire ou de suspension médicale de peine, eh bien, ils sont liés par le contenu de l'expertise. Et puis parce que les JAP ont une culture professionnelle spécifique, ce que j'ai montré dans une recherche récente justement sur la culture professionnelle des JAP qu'on regarde la déficience, donc de la sortie de la délinquance, et les JAP sont des magistrats qui sont effectivement compétents en matière de déficience et qui agissent généralement en conséquence. Et enfin, parce qu'en France, toujours autre particularité, on peut considérer qu'il y a encore aujourd'hui une toute puissance de la psychanalyse, avec notamment en toile de fond une résistance à la littérature internationale, pour différentes raisons, dont certaines d'ailleurs liées à la langue. Alors, l'autre raison pour laquelle je me suis, on verra pas toute seule d'ailleurs, lancée dans cette recherche, c'est parce que la littérature française sur les juges et les experts a toujours été d'ordre général et assez philosophique d'ailleurs, brassant des idées assez larges, mais étant finalement assez peu pragmatique d'une manière générale. Les auteurs s'intéressent notamment en particulier à qui domine l'autre, qui instrumentalise l'autre, qui domine l'autre. Principalement, lorsqu'il s'agit de sociologues, en plus, on sent la détestation pour les magistrats. Il n'y a pas toujours une bonne connaissance d'ailleurs de l'habitude professionnelle de ces magistrats. Ceux qui ont mené ces recherches le font souvent aussi dans l'ignorance du cadre juridique institutionnel et humain, de l'expertise et encore moins du cadre judiciaire. Alors, je me suis associée à un expert, le docteur Parata, qui avait déjà travaillé sur le contenu des expertises en matière de suivi socio-judiciaire et sur les méthodes d'évaluation utilisées. J'ai cité sa recherche notamment, mais c'était pas la seule, avec Moralie et Allegen. J'ai essayé de monter dans une recherche permettant de déterminer ce que les JAP pensaient et faisaient des expertises, ce qu'ils en attendaient, ce qu'ils croyaient à son caractère scientifique, etc., et ce qu'ils pensaient des évaluations actuariennes, et je vais dérouler ensuite évidemment ces différentes questions. Alors la méthode de la recherche est qualitative, pardon, exclusivement, évidemment après la revue de la littérature. Nous avons interviewé des juges d'application des peines. Quand je dis nous, c'est-à-dire des étudiants du Master 2 de droit pénal et de criminologie appliquée de Reims, donc mes étudiants de M2, qui étaient 6, et moi-même avons mené donc 20 interviews de JAP. Mes étudiants ont par ailleurs interviewé 11 experts pour avoir un point de comparaison, mais c'était bien les JAP qui étaient notre point de focus. Et bien sûr, et nous avons collecté des expertises aussi dans divers dossiers, ce qui a permis de suivre l'expertise dans son cadre effectivement global. Les JAP étaient 5 hommes et 15 femmes, ce qui est tout à fait représentatif de la magistrature d'aujourd'hui. Les interviews ont duré au moins une heure. Et les interviews se sont déroulées au cours de l'année universitaire 2012-2013 avec le dernier interview en août 2013. Il s'agissait d'entretiens semi-directifs enregistrés et retranscrits verbatim sauf opposition d'interlocuteur. J'ai effectué le codage, la revue de la littérature a été partagée avec M. Baratta et nous avons co-dirigé l'équipe d'étudiants. Alors, c'est une recherche qualitative, donc elle présente évidemment des limites. On ne sait notamment pas, ça ne renseigne notamment pas sur ce qu'ils disent, que sur ce qu'ils font, uniquement sur ce qu'ils disent, et en particulier sur ce qu'ils en font dans leur jugement. Alors, toutefois, dans la recherche précitée sur les JAP, sur la culture professionnelle des JAP, on regarde la dissidence, j'avais récolté 1300 jugements, et donc ça me donne quand même une idée assez claire de ce que font les JAP, de l'expertise, et d'autres, d'ailleurs, d'autres éléments de fait et de dossier. Alors la moyenne d'expérience des JAP était 4 ans et demi, la plupart n'avaient pas fait criminologie, quand même 5 sur 20 en avaient fait, criminologie générale ensuite. La répartition de l'échantillon entre milieu ouvert et milieu fermé, courte et moyenne et longue peine, était satisfaisante. Alors quels sont les résultats de cette recherche? Je vais redérouler les différentes questions problématiques, pas tous bien sûr, mais une bonne partie des problématiques été soulevé dans le cadre de cette recherche. Alors le premier point, c'est ce qu'attendent les JAP d'une expertise. Une question ouverte a été posée aux JAP, qu'attendez-vous de l'expertise? Et finalement, assez peu ont répondu en se référant à ce que le code de procédure pénale impose, et notamment la dangerosité et la récidive, qui sont effectivement les deux points que l'on trouve dans la plupart des textes, soit ensemble, soit séparément. Tous les textes sont d'ailleurs assez incohérents. 5 seulement magistrats ont évoqué la dangerosité, 4 seulement ont évoqué la récidive. D'autres exigences légales les ont plus intéressées. Par exemple, on trouve dans les textes référence à un diagnostic de pathologie mentale, et là, 11 JAP ont spontanément évoqué ce point. Je vous rappelle que c'est une question ouverte. Alors, sans doute parce que, en partie, désormais, les législateurs vont aussi savoir si les condamnés peuvent être soumis à un traitement, et 9 JAP en ont en effet parlé, mais sans doute aussi, on va le voir, parce que les JAP savent que les experts ne peuvent pas être performants sur la récidive et sur la dangerosité, mais qu'en revanche, la maladie mentale est bien leur cœur de métier. Alors, au-delà de la seule question du traitement imposé par la loi, d'ailleurs, il s'agit aussi pour les JAP d'une demande d'orientation quant au contenu du suivi. Et là, c'est le moment de souligner, mais j'y reviendrai, qu'en France manquent justement les évaluations par les CRU qui existent partout dans les pays occidentaux développés, qui permettent de révéler les risques et les besoins criminogènes et d'orienter justement le suivi entendu au sens de suivi probatoire. Alors, précisément, 10 JAP ont répondu que c'est une question ouverte, je rappelle, hein, j'insiste là-dessus, qu'ils attendaient de l'expertise des éléments de biographie et de personnalité. Donc je répète, 10 JAP sur 20. Hein. Ils voulaient en savoir plus sur la personne, son contexte psychologique, qui elle était, pourquoi elle était passée à l'acte. Le contenu de leur discours renvoie d'ailleurs très clairement à la culture française, profondément marquée par la psychanalyse. Par exemple, vous voyez cette citation. Ben là, j'ai eu une expertise que j'ai eue ce matin, et où l'expert remet la faille que ça pouvait avoir été, le décès de la mère par suicide, alors que mon condamné avait 17 ans, et le fait qu'il ne veut pas relier à son histoire à son passage à l'acte, et quand il parle des faits, ben voilà, d'un côté il assume par rapport à son image de grand banditisme, etc. Bon, j'arrête là la citation. Ce qui explique JAP, l'un des JAP, et ce que l'on sent bien dans d'autres interviews, est que finalement la prédiction n'est plus qu'une chose, mais le cœur de leur propre travail, étant d'apprécier si un aménagement de peine est opportun ou pas, pour eux il est plus important d'avoir des éléments de personnalité. Mais en même temps, à condition pour ces JAP qu'elles leur apportent un plus sur ce point par rapport au dossier qu'ils ont déjà. Et certains JAP sont moins favorables à cette histoire de vie. Clairement, en fait, ce qui est apparu, c'est que si leur dossier est suffisamment rempli, si eux connaissent bien la personne, petit ressort récidiviste, hein, ou surtout si le SPIP a fait son travail, a lui-même fourni des données biographiques et de personnalité, et bien les JAP répondent au contraire qu'ils n'ont pas besoin que l'expert leur raconte la vie et la personnalité de l'intéressé. Donc, ils ont leur propre expertise finalement par rapport au dossier, la propre connaissance, parce que ce sont des magistrats qui ne voient pas les gens plus de fois, hein, et ils tirent aussi des éléments du SPIP. Donc clairement, il y a une réflexion à avoir sur les positionnements professionnels de chacun. Je fais actuellement de recherche sur les avocats dans l'application des peines, et il y a certains avocats qui vont chercher du travail pour le condamner, contacter les organismes de droit commun, en fin de compte les aider à monter leur projet. Ceux-ci me disent qu'il est nécessaire parce que les SPIP ne le font pas, ou alors qu'ils devraient le faire. Hein, donc il y a vraiment des phénomènes de vase communicant entre professionnels autour de l'exécution des peines. Un second enseignement fascinant sur cette question générale est que les JAP veulent comprendre comment l'expert est parvenu à sa conclusion. Ils veulent la preuve par le raisonnement déroulé et non une réponse brute dont ils vont alors se méfier. s'est évoqué spontanément cela par DIJAP. Par exemple, vous voyez cette citation, une mauvaise expertise, c'est une expertise qui pose une conclusion sans expliquer comment on y arrive. Quand c'est bien argumenté, je trouve que c'est plutôt scientifique. Donc on fait un lien entre la démonstration du raisonnement, comment on arrive à la conclusion, et d'autre part, la scientificité. Donc ça ne surprendra pas, mais la plupart des gens, 13 sur 20, répondent aussi qu'ils veulent que l'expertise soit compréhensible et claire, reflétant que ce n'est souvent pas le cas. Voilà ce que dit l'un d'entre eux. Oui, une mauvaise expertise, ça peut aussi être une expertise jargonnante, j'ai besoin qu'ils vulgarisent l'expert, sinon je ne comprends pas. Et quant à moi, j'ai assisté à une scène dans une CAP où le JAP devait résumer, une audience juridictionnelle, pardon, de JAP, qui devait résumer pour la personne le contenu essentiel de l'expertise, qui est une pratique générale, bien sûr, et elle levait les yeux au ciel, créant ainsi une connivence avec le condamné autour du caractère totalement abscon et jargonnant de l'expertise, et pour finir, elle a balancé le document sur le dossier en disant « Bon, ça ne veut rien dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un document pareil avant de passer à autre chose ?» Les JAP ont ensuite surtout des demandes plus prosaïques. Ici, 7 d'entre eux ont répondu qu'ils attendaient de l'expertise qu'elle réponde aux questions, ce qui n'était apparemment pas, selon eux, toujours le cas. Et nous y reviendrons, la plupart évoquent la question du délai pour restituer les conclusions. Donc ça, c'était mon premier point. Le second, qu'utilisent-ils dans les expertises qu'ils ont reçues? La recherche générale dont j'ai parlé tout à l'heure sur les JAP m'a montré que la plupart, et notamment contrairement au CUSPIP, ont bien la culture judiciaire de l'attention pour le détail et de la lecture très fine, et détailler leur dossier. Ainsi, par exemple, je fais une recherche avec deux psychologues sur leur processus décisionnel. J'avais constitué des cas pratiques fictifs d'une bonne quinzaine de pages et les interviewés ensuite à ce sujet. Ils m'avaient tous impressionné par la connaissance fine des dossiers fictifs qui avaient ainsi été constitués. Alors, pour la présente recherche, nous avions demandé dans quel ordre ils lisaient les expertises. Je voulais surtout détecter s'ils les lisaient en diagonale. 19 sur 20 ont répondu tout lire des expertises. Pas pu m'en assurer, bien évidemment. Un seul a admis lire parfois certaines parties en diagonale. 9 sur 20 ont répondu lire dans le désordre, c'est-à-dire lire d'abord les conclusions, puis recommencer depuis le début. Tous les autres ont dit lire dans l'ordre. Nous leur avons aussi demandé ce qu'ils utilisaient de l'expertise dans leur jugement, et à ce stade, il est important de noter, pour bien comprendre que les JAP ont une obligation juridique de reprendre dans le milieu de leur jugement, il y a d'abord une partie processuelle, la fin de leur jugement c'est leur décision proprement dite, ce qu'ils décident pour le cas, mais au milieu ils ont l'obligation juridique de reprendre tous les avis, les rapports, les conclusions, les réquisitions, le rendu d'audience qu'ils ont ainsi récolté, c'est-à-dire l'ensemble de faits et d'avis qui vont asseoir leur jugement. Donc ce n'est pas qu'ils se les approprient personnellement, c'est juste qu'ils doivent démontrer comment ils ont travaillé. D'ailleurs, le ton est toujours neutre et extériorisé, il en va de même, d'ailleurs, avec les rapports des SPIP. Par exemple, l'expert, M. X, retient que, et suit la citation. Donc c'est juste une organisation juridique classique d'un jugement. Toutefois, on pourrait se demander s'ils en feraient un résumé propre, ou en tireraient des données dans le corps des expertises, ou se borneraient à reprendre tel ou tel élément des conclusions. 8 ont répondu qu'ils reprenaient des éléments des conclusions, 1 a répondu qu'ils reprenaient des éléments du corps de l'expertise, 2 qu'ils faisaient un peu des deux, et la question n'a pas été posée à tous les âges d'ailleurs. Les interviews ont toutefois révélé que les gens utilisent diverses techniques de neutralisation des expertises qu'ils jugent mauvaises. Certains donc les instrumentalisent en reprenant dans une expertise ce qui va dans le sens de ce qu'ils ont l'intention de décider au vu des autres données de l'espèce. Je vous donne une citation. Bon, je vais trouver plus pertinente celles qui vont dans le sens de ce que je pense. Et cette autre nous dit, bon après moi je prends ce qui me semble pertinent pour ma motivation. Donc si je dis que monsieur présente un risque de récidive important, je vais aller chercher dans l'expertise les éléments qui me permettent de dire ça. Une question cruciale est aussi de savoir quel est le poids de l'expertise sur le JAP. Donc la plupart des praticiens pensent que les JAP ne peuvent pas décider, par exemple, de libérer une personne si l'expert a dit qu'il y avait un risque réel de récidive. C'était d'ailleurs clairement l'un des objectifs du législateur ces dernières années. Alors il est clair que le poids le poids de l'expertise est tout de même réel. 5 JAP ont répondu ne jamais se départir des conclusions de l'expert. Toutefois, 12 JAP nous ont répondu qu'il leur arrivait de le faire. Ce qui apparaît clairement dans ces réponses, c'est que le JAP a d'une part d'autres éléments pour faire son opinion, autre avis, autre rapport, mais surtout sa propre connaissance et du dossier et de la personne, mais aussi de l'exécution des peines et des condamnés en général. Bref, il a sa propre expertise et expérience, lui aussi, qui lui permet de prendre du recul par rapport à l'expertise. Dernièrement, dit ce JAP, une expertise donc qui conclut un risque de récidive, et nous on a estimé que le risque de récidive n'était pas suffisamment avéré pour prononcer une mesure de surveillance judiciaire. De plus, l'enjeu est ici donc un aménagement de peine. Or, un aménagement de peine est une mesure dont le fondement même est la prévention de la récidive. En d'autres termes, l'accorder va pour le JAP, et d'ailleurs pour le législateur, c'est écrit à l'article 707, être le moyen même de réduire la récidive. Par exemple, si Jacques dit, bah, on le prend en compte, mais je veux dire que si un expert nous dit que la personne est dangereuse mais qu'on estime que l'aménagement de peine permet aussi d'éviter la récidive, ça ne nous empêchera pas de lui accorder. Cet autre dit, si on s'en tient à une analyse d'un expert, je veux dire, bon, déjà, on ne fera pas sortir grand monde. Au demeurant, l'expertise n'est qu'un élément parmi d'autres qui en comporte bien sûr de nombreux et parmi lesquels le JAP, comme n'importe quel magistrat, va arbitrer. Par exemple, tel JAP dit, bah oui, parce que souvent ma motivation, c'est d'un côté, il y a des éléments très inquiétants, mais c'est compensé par tel élément. Donc je peux mettre que d'un côté, l'expertise laisse évoquer tel ou tel problème, mais d'autres éléments justifient que l'aménagement de peine soit accordé. Et à cet égard, il y a ce qui se joue à l'audience, qui est extrêmement important également. Alors le troisième point de cette recherche, c'est ce que les JAP pensent des expertises obligatoires. Premier point, première sous-question, y a-t-il trop d'expertises inutiles, enfin d'expertises obligatoires inutiles? Comme nous venons de le voir, les JAP se plaignent d'avoir trop d'expertises obligatoires. 18 d'entre eux nous ont dit qu'ils en avaient trop. Les raisons de leur plainte sont triples. Un, ce n'est tout simplement pas nécessaire dans un certain nombre de cas. Deux, cela pose de sérieux problèmes matériels. Et trois, cela les oblige à attendre très longtemps pour pouvoir rendre leurs décisions. Donc ils listent principalement sur le premier point comme étant inutile les expertises pour incendie volontaire ou destruction par moyen dangereux, 10 sur 20 l'ont évoqué, et les expertises pour violence domestique, 6 sur 20 l'ont évoqué. Dans les deux cas, parce que ces infractions font encourir le suivi socio-judiciaire, elles sont obligatoires donc. Sur les deux violences domestiques, toutefois, ce n'est pas très étonnant lorsqu'on voit par ailleurs qu'ils maîtrisent mal la dynamique et la prévalence et la dangerosité des violences domestiques, comme une autre recherche que je mène actuellement, comme je le disais tout à l'heure, avec deux psychologues, l'a montré. Il est toutefois important de le relever que le JAP ne remet pas par principe les expertises pour les feux de poubelle ou violences domestiques en cause. Ce qu'ils remettent en cause est leur caractère systématique et le fait qu'ils soient faits, soient imposés, quels que soient les faits et le profil de la personne. Toutefois, nous avons quand même remarqué que les JAP sont toutefois plus dans la posture, ils donnent précisément toujours les deux mêmes exemples, pour l'essentiel, feu de poubelle et destruction ou violence domestique, alors qu'en réalité, sur les domaines principaux d'intervention, c'est-à-dire les violences graves ou les infractions sexuelles, soit le cœur d'origine du suivi socio-judiciaire, ben, ils sont finalement d'accord avec le législateur, l'expertise est bel et bien nécessaire. Ce JAP-là nous dit, bah là, ça ne me choque pas, effectivement, par rapport aux infractions sexuelles, parce qu'effectivement, dès qu'il y a une infraction de type viol ou agression sexuelle, c'est vrai que l'expertise, ce n'est jamais superflu. Donc, le problème, en réalité, pour les JAP, c'est pas tellement que leur expertise propre, leur propre point de vue n'est pas pris en compte, puisqu'on le voit dans la plupart des cas quand même, l'expertise n'est qu'un élément parmi d'autres, c'est surtout les conséquences matérielles absolument ingérables qui résident des expertises obligatoires systématiques qu'ils évoquent. Et là, ils soulèvent une série de problèmes. Donc, d'abord, le fait que beaucoup n'ont pas d'experts, pas assez d'experts, voire pas d'experts du tout dans leur ressort. La plupart des JAP interrogés n'avaient pas assez d'experts localement, une n'en avait aucun, une autre n'en avait qu'un seul. Les JAP ne sont d'ailleurs pas contentés de nous dire qu'il manquait d'experts, ils nous ont expliqué pourquoi, ils nous ont expliqué aussi ce qu'ils faisaient. Pourquoi est-ce qu'il manque d'experts? Ils ont cité non pas le montant de la rémunération, mais plus encore le délai pour payer les experts, le fait qu'on manque de psychiatres tout court dans notre pays, le fait que pour les experts ça représente du temps pris sur leur pratique hospitalière ou libérale, le fait que toujours pour ces experts il y a des déplacements, c'est l'embêtement de devoir aller en détention, la peur de certains experts d'ailleurs dans ce contexte, et puis le fait qu'ils sont cuisinés notamment aux assises puisqu'ils ne font pas que de l'application des peines hein, et qu'ils y sont malmenés donc par les avocats sans que le président souvent intervienne. Alors comment se débrouillent les JAP? Certains vont faire les VRP, 4 l'ont dit, pour convaincre les psychiatres et les psychologues qu'ils rencontrent de venir faire l'expert chez eux. D'autres, 9 d'entre eux nous ont dit qu'ils vont shipper dans d'autres ressorts voisins, voire plus loin. 5 nous ont dit qu'ils commettent des experts qui ne sont pas sur les listes. 3 nous ont dit faire venir les experts pour plusieurs expertises à la fois pour leur éviter trop de déplacements. Et 2 nous ont confié se censurer sur les expertises facultatives. Tout ça ne représente pas la proportion de ce qu'ils font effectivement, bien sûr, puisque je répète, ce sont les réponses spontanées des magistrats sur une question ouverte. Bon, finalement, seuls 2 JAP nous ont parlé de commission d'experts hors liste, mais pour ce qui concerne, au regard de leurs compétences spécifiques, une JAP dont j'en parlerai ne fait plus appel qu'à un seul expert qui utilise les outils actuariels en raison et qui en plus les insère dans des évaluations cliniques de très grande qualité. Donc, après avoir goûté, si j'ose dire, à ses expertises, ne supporte plus les autres. Et une autre nous a raconté avoir commis un expert spécialiste des personnes âgées dans un dossier où cela était pertinent. Deuxième problème, le fait que les experts sont payés avec un retard absolument innommable, cité par 11 Jacques, qui semblait d'ailleurs en ressentir de la honte. La justice étant dans un état de pauvreté absolue que nos citoyens, concitoyens ignorent, plus de papier, plus de chemise cartonnée, plus d'imprimantes, plus de stylos, plus de scanners, des scanners en panne depuis des mois, plus de greffiers, plus d'argent pour poster les dossiers des condamnés qui changent de ressort. La plupart des profs ou des présidents de juridiction vous expliqueront qu'il n'y a plus d'un centime dans les caisses de leur TGI en mars, en avril ou en mai. Ce à quoi il faut ajouter les frais de déplacement des experts qui ne sont pas ou mal remboursés. Donc, dans de telles conditions, la question des délais pour la restitution des dossiers est au centre de notre préoccupation déjà. Enfin, même s'ils fixent des délais, souvent ces délais ne sont pas observés. Donc, la préoccupation pour les délais finit par éclipser bien souvent la préoccupation pour le contenu. Ce genre de, par exemple, c'est surtout ça qui prime, la question du délai. Alors, quatrième point dans cette recherche, ce qu'ils pensent des experts cette fois-ci. Ce qu'ils pensent d'abord de leur rigueur professionnelle. Nous avons voulu savoir ce que les Japonais pensaient de la rigueur et du sérieux des experts, et sur ce point, les avis ont été extrêmement contrastés. 8 les ont estimés à la fois sérieux et rigoureux, mais que constitue pour eux le sérieux et la rigueur? On pourrait s'attendre à une exigence de contenu et de rigueur scientifique, mais point du tout. Plusieurs Japonais nous ont répondu que la rigueur et le sérieux étaient caractérisés par la ponctualité à rendre des conclusions. De ma intervention au colloque de Rennes du 31 janvier 2014. Donc j'ai parlé de la rigueur professionnelle des experts et que constitue donc pour les JAP le sérieux et la rigueur. On pourrait s'attendre, disais-je, à ce que ce soit essentiellement au regard de la rigueur scientifique. Eh bien, point du tout, plusieurs JAP nous ont répondu que c'est surtout la ponctualité à rendre des conclusions et finalement les JAP, finalement, on se rend compte qu'ils promettent les experts parce que la loi l'impose. Ce qui compte, c'est surtout le délai et j'allais dire même au-delà, le simple fait d'avoir l'expertise que la loi impose, plus le contenu même de l'expertise. D'autres JAP, toutefois, lient sérieux à la connaissance de la personne et du dossier. Par exemple, ce JAP a été très impressionné par un expert en disant « Je me souviens que le docteur X s'est enfilé les 4 tomes de procédure et il la connaissait par cœur. » Cette même JAP évoque l'expert en disant « Il y a quelque chose qui m'a marqué d'emblée dans sa rédaction, les notes de bas de page, parce qu'il met toute la documentation chaque fois qu'il fait référence à des articles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met des annexes avec des graphiques, etc. » Donc là encore, on voit, ça renvoie aussi à ce qu'on disait, le fait que les gens ont besoin d'avoir une démonstration à l'appui d'un raisonnement. Et là, c'est une partie très importante déjà, n'est pas convaincue du sérieux des experts qu'elle doit utiliser. 10 d'entre eux ont décrit des situations où certains de leurs experts sont bons et d'autres non. 2 JAP ont évoqué des difficultés récurrentes et 6 nous ont raconté des anecdotes inquiétantes. Une question récurrente a donc été, à cet égard, le peu de temps que certains experts passent avec les condamnés, ce qu'ils ont la possibilité de vérifier par eux-mêmes, par l'intermédiaire des détenus comme des personnels pénitentiaires. Effectivement, dit celui-ci, le temps d'aller en détention, de voir les détenus, ils y restent des fois, ils me disent 10 minutes. Précisément, la qualité et la durée de la relation avec les praticiens, cette fois-ci les JAP, permet d'avoir des informations qui, elles, vont échapper aux experts. Et voilà ce que raconte l'un des JAP. J'ai eu une fois un condamné qui était suivi pour des agressions sexuelles en région parisienne, de je ne sais plus, une vingtaine d'enfants, et c'était des enfants gardés par sa mère, et qui étaient sous traitement anti-libido avec une problématique pour sortir, enfin une grosse peine. Bon, il avait demandé une permission, qu'on lui avait finalement octroyée, mais avec un encadrement, et au bout d'un certain temps, juste avant que je parte d'A, il avait demandé à me voir, et il m'a dit qu'il était embêté, parce qu'il voulait m'avouer quelque chose, et c'était qu'il ne prenait plus son traitement anti-libido depuis 2 ans. Et les experts qui s'étaient réunis et qui l'avaient vu n'avaient pas détecté ça. Ce qui nous a beaucoup amusé est que les JAP savent aussi utiliser les mauvais experts. Ce qu'ils font est qu'ils les utilisent pour les expertises qu'ils jugent inutiles, obligatoires mais inutiles, afin de se garder les bons pour les expertises qu'ils jugent au contraire indispensables. Les autres JAP nous racontent tout simplement que lorsqu'on vise un mauvais expert, ils ne le commettent plus sur aucune expertise. Mais ce qui est frappant, et ça a d'ailleurs été pointé par la littérature française précitée sur les rapports judiciaires expertise, c'est que les JAP connaissent finalement peu leurs experts, leur formation, leur marotte, et toutes questions que nous leur avons posées. Les JAP aspirent à plus de contacts avec les experts, ce que tous les experts ne recherchent en revanche manifestement pas, et certains organisent en effet des réunions pour encadrer, changer, apprendre, et ceux qui l'ont fait ont été particulièrement ravis. À quoi pense-t-il de la cohérence des experts? 4 JAP nous ont dit qu'en présence de plusieurs expertises sur une même personne, il arrivait souvent que les JAP divergent. 6 nous ont dit que cela arrivait régulièrement. 5 que cela n'arrivait pas souvent. Et 5 le restant que cela n'arrivait presque jamais. 4 JAP nous ont indiqué amusés que les experts se contredisaient parfois eux-mêmes entre le développement et la conclusion, par exemple. Que font-ils en pareil cas? Plusieurs stratégies ont été évoquées par une partie d'entre eux, provoquer une contre-expertise ou, dans d'autres cas, statuer quand même en faisant la part des choses. Évidemment, la contre-expertise coûte cher, ralentit à nouveau la procédure, donc évidemment va poser problème. Troisième sous-question, que pense-t-il du caractère scientifique de l'expertise? D'abord, la scientificité intrinsèque. Seulement Sunjap nous ont indiqué être réellement convaincus par le caractère scientifique de l'expertise, tout en soulignant qu'ils y croyaient seulement pour les experts démontrant le raisonnement par lequel ils parviennent à leur conclusion, donc c'est décidément une thématique forte dans cette recherche. Les autres estiment que ce qui est demandé à l'expert n'est pas dans l'absolu une science exacte, puisqu'on ne serait pas dans le domaine de la science, mais dans celui de la psychologie. Teljap a utilisé l'expression « ce n'est pas une boule de cristal », tel autre « ce n'est pas une science mathématique », tel autre « les experts ne sont pas des médiums », et encore tel autre « on n'est pas dans une relation de croyance ». Plusieurs Jap ont à cet égard distingué entre l'évaluation psychiatrique proprement dite et l'évaluation criminologique. Celui-ci dit, par exemple, de quelle science? Là, le problème, c'est de quelle science on parle. Si c'est la psychiatrie, pour procéder à un diagnostic, c'est normalisé, c'est internationalement reconnu. Là, c'est la scientificité, je pense qu'elle n'est pas à remettre en cause. Après, tout ce qui est diagnostic et visée criminologique, autrefois, vous remarquerez la terminologie utilisée. Personne estime de toute façon que les questions imposées par le législateur, notamment celles de la dangerosité, sont trop floues pour donner matière à de la science. Il n'empêche que l'absence de conviction des JAP repose aussi sur la perception du sérieux de certains experts, d'une part, et de leurs compétences criminologiques, d'autre part. Il y en a un qui dit, par exemple, oui, elles sont, enfin, mais la méthodologie est assez sommaire, c'est-à-dire essentiellement un entretien entre la personne et l'expert, il n'y a pas grand-chose d'autre comme matière première de l'expertise. Certains JAP remettent aussi en cause la domination de la psychanalyse, manifestement inapte à répondre aux questions posées. Il y en a un qui dit, par exemple, clairement, c'est quoi les données acquises de la science? Si vous écoutez certains experts, c'est que de la clinique. D'autres vous diront que c'est de l'actuariel. Moi, je pense que pour certains, on peut avoir l'impression d'être dans un autre temps, au temps de Freud. Alors, l'expert est-il meilleur que d'autres professionnels? C'est aussi une question que nous leur avons posée. Une minorité de JAP, seulement 8, avait déjà eu affaire à des rapports du Centre National d'Évaluation. Pour ceux qui avaient déjà eu ce type de rapport, la plupart, 6, a considéré qu'ils étaient de meilleure qualité et plus complets. Et qui étaient plus crédibles aussi en raison de la durée même de l'observation, 6 semaines contre, on l'a vu, une demi-heure ou parfois 10 minutes. Une minorité de JAP, 2 seulement, n'étant pas plus convaincue par les rapports du CNE, a répondu sur la question de la qualité du discours et de l'évaluation elle-même. Donc voilà, celui-ci nous dit par exemple, bon, soit des trucs un peu bisounours, soit des trucs complètement déconnectés, on ne connaît pas les outils utilisés. Bien sûr, l'idée est tout à fait valable, mais après, il faut voir les outils, la formation. Et cet autre, ben, le CNE ne répond pas à des questions donc, sur l'évaluation. Je pense que si on leur posait des questions, de toute façon, ils ne répondraient pas. Ils ne répondent pas à nous, ils se parlent à eux-mêmes. En tant que chercheur, je dois aussi souligner que c'est difficile d'accéder au CNE, de savoir véritablement ce qui s'y passe. Les CPMS, en revanche, à leur commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, font quasiment l'unanimité déjà les ayant expérimentés, 10 contre eux. Seuls 2 sur 10, donc sur ces 10 qui ont expérimenté, sont dits satisfaits. Tous les autres en soulignent l'inutilité et l'incompétence, l'indigence de leur rapport et le côté folklorique parfois de ceux-ci. Donc voici 3 citations. Premier JAP, c'est un joli résumé d'une page, voilà. Cet autre, je vois vraiment pas trop ce que vient faire le représentant d'une association de victimes, ni les policiers, ni les gendarmes d'ailleurs. Et cet autre, bah, des fois on a eu des paragraphes où il disait que la personne était dangereuse et qu'il ne fallait par conséquent pas mettre monsieur en surveillance judiciaire, ton moqueur, là évidemment, ce qui était complètement antinomique. On ne comprend pas, mais on ne peut pas leur dire, enfin vous écrivez n'importe quoi. J'ai souligné le côté vaste communicant entre l'évaluation des experts et celle des SPIP. Clairement, meilleur est un SPIP et moins on a besoin des experts et vice-versa. L'avenir est de toute façon à l'évaluation par des CPIP qui auraient été correctement formés et utiliseraient des outils fiables. Lorsque le SPIP est bon, l'expertise est donc pas forcément indispensable, mais elle peut être complémentaire. Par exemple, ce JAP nous dit, rien que la biographie, parfois, entre ce que l'on a dans l'expertise et ce qu'ils ont pu raconter au SPIP, car le SPIP fait aussi un travail biographique, parfois on a plus d'informations, plus de détails, c'est plus clair. Donc, comme le souligne cette JAP, finalement, le travail d'un juge est de juger sur la base d'une diversité de données. Et le JAP, comme je le disais tout à l'heure, est un arbitre. Cependant, plusieurs JAP nous diront que les CPIP ne sont pas du tout prêts à remplacer les experts, car ils sont incompétents sur le plan criminologique. À cet égard, le DAVC les a beaucoup, beaucoup décrédibilisés, il faut le dire. Alors, justement, les JAP et les outils actuariels. Il nous a paru intéressant de distinguer les JAP en n'ayant jamais lu une seule, et ceux en ayant lu au moins une. Pour bien distinguer les représentations idéologiques et théoriques et celles fondées soit sur du réel, tant cette question a été polluée par l'idéologie. Donc seuls 6 JAP en avaient déjà lu. Alors parmi les autres JAP, ceux qui n'en avaient jamais vu, grossièrement un quart en pensait du mal, un quart en pensait du bien, un quart ne savait pas, un quart était ambivalent. Ceux qui ont pensé du bien faisaient référence à des formations en criminologie, les ayant éclairés à ce sujet. D'autres se moquaient un peu de la culture française humaniste, ne pouvant pas croire que les statistiques permettent de prédire sur de l'humain, et le fait que les Français, sans doute le complexe d'Astérix, sont forcément, ou seraient forcément biologiquement et neuroscientifiquement différents du reste du monde, en sorte que les outils seraient par nature intransposables dans notre pays, ce qui ne peut que manquer d'amuser une personne d'origine anglaise comme moi. En miroir, ceux qui en pensaient du mal avaient parfois suivi des formations où les intervenants avaient parlé en mal de ces outils. D'autres, d'ailleurs, adhéraient à l'idée que la culture française était rétive à ce qui était anglophone et à ce qu'ils analysaient comme étant de l'enfermement de l'humain dans des statistiques. Ceux qui ne savaient pas voyaient bien l'aspect idéologique de la question, mais se disaient prudemment incapables de trancher, et tandis que les ambivalents étaient dans un entre-deux où ils évoquaient des arguments pour et parfois contradictoires. Ce qui était en tout cas apparent était que certains Japs se demandaient bien ce qu'ils pourraient faire d'une expertise ne comprenant que des résultats statistiques. « Bon ben, nous dit celui-ci, quand on vous dit « Monsieur appartient à un groupe de personnes qui récidivera dans 35% des cas une échéance de 7 ans, comment vous exploitez cela quand on parle de la personne ?» Bon, évidemment, une telle citation relève évidemment de l'ignorance de ce en quoi consiste une évaluation comprenant l'utilisation d'outils actuariels. En tout cas, clairement, ils veulent autre chose que le seul résultat, puisque nous avons vu que ce qui les intéresse sont des données cliniques sur la personne. Alors, ceux qui ont d'ailleurs, écartent finalement la polémique purement idéologique, ont quand même cité les faux outils actuariels. Par exemple, le DAVC a été cité par plusieurs Japs, et à juste titre d'ailleurs, comme étant absurde, et n'étant pas un outil actuariel, mais le plus grave, c'est que ça a justement décrédibilisé les outils actuariels eux-mêmes, en raison de son propre caractère non fiable. D'autre part, les faux outils actuariels sont également utilisés par l'administration pénitentiaire pour évaluer, par exemple, des risques représentés par des détenus. Ils sont moins répandus que le DAVC, mais là encore, certains Japs les ont cités à juste titre comme étant non fiables, et clairement, là encore, ça les influence négativement au regard des véritables outils actuariels, par contre. Alors, parmi les Japs, ensuite, qui avaient déjà vu des outils actuariels, c'est-à-dire 6 d'entre eux, notez d'ailleurs qu'il y avait une sorte de cluster d'experts qui utilisaient des outils actuariels dans l'Est de la France, hein, quand nous avons interrogé, étant nous, mes étudiants, moi-même et mes étudiants situés dans l'Est de la France. Bon, aucun des Japs qui avait déjà lu, en tout cas c'est celle le plus important, qui avait déjà lu des expertises comportant des outils actuariels, n'y était défavorable. Ils étaient soit totalement pour, soit pour, mais avec le maintien de l'expertise clinique en plus de l'expertise actuarielle, ce qui d'ailleurs était le cas dans toutes les expertises avec outils actuariels qu'ils avaient lues. Pour certains de ces Japs de l'Est de la France, d'ailleurs, c'était une source de fierté locale que d'avoir des experts utilisant ces outils dans leur région. Ce qui convainc notamment les Japs qui ont donc vu de vrais outils de l'évaluation actuarielle et que les items utilisés, ça paraît très important, renvoient finalement à leur propre expertise et ne les surprennent pas du tout. Ce Jap dit par exemple, j'avais tout d'abord entendu parler des expertises à la française de façon très péjorative et idéologisée, puis au cours d'une formation il y a 3 ou 4 ans, j'ai vu les items utilisés et là je me suis dit que c'était totalement débile d'idéologiser ces trucs-là parce que 95% des questions qui étaient posées étaient des questions que moi-même je me posais finalement. Au final, je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un foin. Et cet autre dit, moi je trouve que c'est inutile, que c'est pardon, utile et complémentaire parce que je considère que c'est effectivement des facteurs. Donc finalement, les Japs sont pris dans des débats idéologiques, les débats idéologiques français habituels, hein, qui reviennent comme toujours à cacher la forêt avec un seul arbre, tant il est dans notre culture de nous focaliser sur le général et le philosophique et d'oublier le pragmatique et le réel. Ils ont aussi des représentations fausses sur ce qu'est l'outil actuariel en raison même de ce débat faussé et ce qu'il véhicule. Ils sont donc contre par principe pour une partie d'entre eux, mais quand ils ont lu une vraie expertise comportant un outil actuariel, ils en sont généralement très contents. Cela est d'ailleurs tout à fait cohérent avec leur demande évoquée supra, de comprendre par quel raisonnement l'expert est arrivé à sa conclusion. Et au demeurant, une Jap a indiqué qu'elle était plus convaincue par les expertises psychologiques qui précisément faisaient appel à des protocoles, des outils et des checklists précis, et non seulement à une observation clinique. En d'autres termes, si pour conclure, les Japs veulent des outils fiables et scientifiques, ils ne savent juste pas exactement de quoi il s'agit.